Quoi? Donc en fait, l'idée elle est qu'on va parler de le sujet Perek Aleph, pardon. Donc le sujet c'est la galoute. Pour pouvoir parler de la galoute, il faut parler de la Géoula, parce que enfin pour pouvoir parler de la Géoula, il faut parler de la galoute. Parce qu'en fait, l'idée elle est que on avait expliqué ça la semaine dernière, c'est que c'est pas juste qu'il y a une galoute qui dure très longtemps, et d'un coup, hop, du jour au lendemain, il y a une Géoula. Non, c'est qu'en fait, la galoute, toute la situation de la galoute, elle bascule dans la Géoula. C'est que la galoute, elle amène à la Géoula. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est pas qu'on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Voilà, on est sauvé et tout va bien. C'est qu'en fait, c'est pas qu'on doit souffrir pendant un temps donné, et après on finit de souffrir et c'est la Géoula. Non, c'est qu'en fait, la galoute, elle nous mène inexorablement à la Géoula. C'est deux contraires, et il y a une lente transformation du peuple juif qui passe par la galoute jusqu'à qu'il soit arrivé au moment où cette galoute, elle se transforme en Géoula. C'est-à-dire que de la galoute, ou Matzmiach Yeshua, et je pense que le Maharal aussi il en parle, mais le Kuzri déjà il parle de cette idée que la Géoula, c'est comme une graine qu'on met en terre, elle se décompose, t'as l'impression que c'est en train de pourrir, la graine, tu la vois même plus en fait. Elle est en train de pourrir, elle est en train d'être attaquée par la terre qui l'entoure, et puis tu attends un peu, et puis d'un coup, ça repousse, et tu vois d'un coup qui pense, qui Tu vois d'un coup quelque chose qui grandit. C'est quoi? C'est Melech Memit ou Mechaye ou Matzmiach Yeshua. Memit ou Mechaye ou Matzmiach Yeshua. C'est-à-dire que la Géoula, elle vient de la mort. Alors même dans la Triat HaMetim, c'est de la mort à la vie ou Matzmiach Yeshua. C'est ça l'idée.
Mais en quoi c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire? T'as dit c'est pas ça, mais c'est ça. Mais en fait,
Non, c'est pas que pendant 1000 ans tu souffres et que d'un coup, alors t'es libéré, c'est la fin de la galoute. C'est pas que c'est la fin de la galoute. C'est que la galoute, c'est pas que. Des fois, t'as un enfant, il est puni, il a une heure de colle. Bah, à la fin de l'heure de colle, il s'en va. Pourquoi? Parce que l'heure de colle, elle, c'est fini. Mais c'est. Ouais. Il est sorti, pourquoi? Parce qu'il a fini. Ouais. La Géoula, c'est pas qu'on a fini la galoute. C'est quoi? C'est comme quand tu vas t'entraîner pour quelque chose, que l'entraînement, il te permet d'arriver à ce que tu veux être. T'as besoin de. Tu vas faire des études. Tu vas te galérer pendant 3 ans, 5 ans. Ouais, tu vas faire médecine pendant 12 ans. Tu auras des nuits, ce ne sera pas des nuits. Tu auras le concours, le machin. Ouais, des épreuves sans arrêt. Et à la fin, quand tu reçois ton diplôme, ce n'est pas que bon, ça y est, tu as fini 12 ans de galère. Maintenant, on te donne ton diplôme. Non, c'est que ces 12 ans de galère, ils te mènent au diplôme. Et sans les 12 ans de galère, tu n'aurais pas eu ce diplôme. Alors que l'heure de colle, bah.
Mais c'est pas classe, quoi.
Oui, c'est pas que la fin, mais c'est aussi pas quand à la fin de tes études tu reçois le diplôme. C'est pas que ça y est, t'as fini tes études, alors on te laisse. Ouais, c'est pas que pendant 5 ans il fallait que tu trimes et dès que à la fin, bon, bah on dit bah tu peux y aller. Non. Les 5 ans ils t'ont mené au diplôme. La galoute, elle te mène, elle nous mène tous ensemble collectivement à la Géoula. Il dit en fait, l'idée elle est. Donc pour comprendre c'est quoi la Géoula, il faut comprendre ce qu'on vit maintenant et de ça on peut comprendre en nous-mêmes, par nous-mêmes, où est-ce qu'on va. C'est ça l'idée. Alors, donc il disait que on avait expliqué la semaine dernière que la galoute, donc pour comprendre la Géoula, il faut déjà comprendre c'est quoi la galoute. Parce que la galoute, c'est les études. Tu veux comprendre un métier, tu comprends. Alors, tu veux savoir c'est quoi un métier, d'accord. Quelles études il faut que je fasse en mesure de pouvoir faire ce métier. Je vais arriver à la Géoula. Alors, c'est quoi la galoute? Donc, il faut comprendre la galoute avant de parler de Géoula. On ne peut pas comprendre. Ouais. Matril Bignout, vous savez, Mishvar. Ouais, chaque année à la Haggadah. La Haggadah de Pessah, qu'on dit Arami Obed Avi, c'est quoi? C'est ce que la Gemara a dit, Matrilim Bignout. On commence par ce qui est un peu dur, Umsamim Bishvach, et après on va vers la Géoula. Alors, comment ça marche? Alors il dit, parce qu'en fait, si on réfléchit, la galoute, c'est une situation pas naturelle. Pourquoi? Il y a deux aspects en quoi la galoute, elle n'est pas naturelle. La première, c'est que chaque peuple, il a une terre. Hachem, au moment de la création, il a dit, chaque terre, elle est pour un peuple. Cette terre, elle est pour ce peuple-ci. Cette terre, elle est pour ce peuple-là. Ouais. Chaque terre, elle a un peuple. Et chaque peuple, il a une terre. Il n'y a pas des gens qui sont sans terre. Et donc, en fait, le fait qu'on ait un peuple qui a une terre, qui est très attaché à sa terre, qui se retrouve en dehors de la terre, c'est quoi? C'est comme quand tu as quelque chose et que tu as un arbre que tu vas plier. Ouais. Il va se passer deux choses. Soit l'arbre va se casser, soit dès que tu lâches, Il reprend sa position. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pression extérieure qui est appliquée, qui force le peuple juif à être en dehors de sa terre. Le fait qu'on soit en galoute, c'est pas naturel. C'est pas parce que l'état naturel du peuple juif, il est en galoute. Ouais, il y a des gens qui pensent que le peuple juif, il est mis en galoute. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des juifs pas religieux qui disent « Ah oui, non, le meilleur état du peuple juif, le destin juif, c'est d'être sans peuple, d'être sans terre, d'être un peuple sans terre, et comme ça, on est un peuple plus moral, etc. » Mais c'est faux. En fait, on est un peuple qui avons une terre, mais duquel on est repoussé. C'est-à-dire qu'on a une terre, on est attiré vers cette terre, mais il y a quelque chose qui nous empêche de revenir pleinement. C'est-à-dire même quand il y a un retour, mais maintenant il y a un retour, mais le retour, il n'est pas plein et entier. Il y a trop de choses qui font qu'au fond, c'est pas évident d'y retourner.
La Géoula, c'est obligatoirement avec la reconstruction du
pays. On n'y est pas encore. On n'est pas encore. C'est pas ça le sujet. On n'est pas encore. Commence par la Galoute. Après, on verra. Parce que si on comprend qu'une partie de la Galoute, c'est le Khourban, alors. Mais d'abord. Donc la Galoute, première chose, c'est qu'on n'est pas à notre place. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'en fait, il y a une force qui nous maintient en dehors. Mais si, à la seconde, on retire ça, le peuple juif, il devrait revenir en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on est en dehors d'Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'on est en Galoute? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de terre? Parce qu'on est empêché artificiellement d'avoir une terre. La deuxième chose, c'est qu'au fond, il n'y a pas un peuple qui désire plus la redoute que le peuple juif. Il n'y a aucun peuple qui n'y arrive aussi peu que le peuple juif. C'est le paradoxe. C'est-à-dire, on ne parle que de la redoute et on en est complètement incapable. C'est-à-dire que dans les pires des moments, il n'y a pas de redoute. Pourquoi? Parce qu'on en est incapable. Mais comment ça se fait? Il n'y a rien qu'on désire plus au monde. Les gens, quand on leur demande « qu'est-ce que vous voulez le plus au monde ?»« Ah non, la redoute. » Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas en Eretz, il n'y a personne, ils se tapent tous dessus, tous les uns sur les autres. Ouais. Tous les uns sur les autres, ils ne se rendent pas compte que c'est le piège. Ils ne se rendent pas compte que c'est le piège. Comment ça se fait? Forcément, parce que c'est quelque chose... Fondamentalement, on a un peuple uni, mais il y a des choses, il y a des forces, il y a une force, il y a une contrainte qui nous maintient séparés. Mais ce n'est pas une situation naturelle, ce n'est pas une situation naturelle.
C'est pas l'être humain, tu vas dire, d'être en opposition.
Mais le peuple. Non, mais le c'est-à-dire que c'est pas juste que chacun a ses intérêts. C'est qu'en fait, chacun, il veut la redoute. Il veut la redoute, mais il en est incapable. Ouais. L'égoïme, il s'en fiche de la redoute. Chacun, il veut ses intérêts. Ouais. La majorité des Israéliens, tu leur demandes est-ce que tu veux la redoute, est-ce que tu désires la redoute, ils diront oui. Mais ils en seront incapables. Ils en seront incapables. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est pas naturel, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est imposé. Quelque chose qui est imposé, c'est une force. La galoute, c'est pas juste que bon, bah, on a été exilé, c'est fini. Non, non. C'est qu'on est maintenu en exil. L'exil, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. La galoute. La même force qui nous a pris, qui nous a jeté de notre terre, elle est encore à l'œuvre. Elle est encore à l'œuvre. C'est-à-dire que le khurban, ce qu'on appelle le khurban et la galoute, ils sont en action maintenant encore pour nous maintenir tel quel. Pour nous empêcher de revenir en Eretz Israël, pour nous empêcher d'être mitached. C'est-à-dire qu'il y a une vraie force qui arrive de quelque part de l'extérieur. Ouais. Et ça, c'est la preuve qu'en fait, puisque c'est une force extérieure, c'est une contrainte extérieure, les contraintes extérieures, elles ne peuvent pas exister pour toujours. Parce que si c'est une contrainte, sinon, si on dit que c'est quelque chose qui est éternel, ça veut dire qu'en fait, Dieu, il a changé les règles. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait des règles selon lesquelles le peuple juif, il a une terre, selon laquelle le peuple juif, c'est un peuple uni. Et après, il a rajouté une deuxième règle qui dit mais ça marche pas. Ouais, c'est-à-dire que Dieu, il a changé les règles en cours de route. Et ça, on dit en kol chadash tachat hashemesh. Si le peuple juif, il a une terre, donc il a une terre. Alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose de momentané, c'est quelque chose de zmani qui nous maintient en dehors. Mais c'est pas une nouvelle loi de la nature. Parce que si c'est une nouvelle loi de la nature, alors on cesserait d'avoir cette connexion qu'on a avec Eretz Israël. Si Dieu, il avait changé, si Dieu, il avait dit maintenant, le peuple juif, il a plus de terre. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le peuple, il perd sa connexion avec la terre au fur et à mesure. Ouais. En Amérique, la majorité des gens, ils ont perdu. Ouais, les Italiens, ils ont une petite comme ça. Tu vas parler aux Italiens, aux Irlandais, ils ont un petit, ils ont un peu des noms, ils ont un peu de la cuisine, mais c'est une vraie attache à la terre. C'est-à-dire que tu parlais à leurs grands-parents, ils disaient le pays, c'est l'Italie, le pays, c'est l'Irlande. Mais tu leur demandes, maintenant, les petits enfants qui ont grandi en Amérique. C'est quoi le pays? C'est ici, oui, c'est le pays de mes parents, c'est pas le mien. Ouais, parce qu'il y a une rupture. Mais le peuple juif, il n'y a pas eu cette rupture-là. La preuve, c'est qu'on a encore Mechouba. À part ça, quand tu as des gens qui sont partis en Italie, d'Italie pour aller en Amérique, pas tous les Italiens qui sont partis en Amérique. Ça serait un changement radical de l'histoire humaine. Ce qu'on voit par contre, c'est que les royaumes, ils ont des courbes, mais les gens, ils restent sur place en fait. Les royaumes, ils ont des courbes, mais les Romains, ils sont restés à Rome, sauf que l'Empire romain, il s'est cassé la figure. Mais les Romains, ils sont restés sur place, le peuple, il est resté sur place. Ouais. Et quand des fois, tu as par exemple ta Sanhérib qui est Bilbel Kol HaUmot, là, il y a une rupture, ouais, ils savent plus rien. Ils cessent d'être ce qu'ils étaient. On dit, Ammoni, ouais, il ne faut pas épouser des gens qui viennent de Ammon. Ouais. Ou quelqu'un qui vient de... Ouais, quelqu'un qui vient de Ammon, 3 générations, 100 générations, on ne peut pas l'épouser. Oui, mais maintenant on peut. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Il n'y a plus d'Ammonim, il n'y a plus de Moabim, il n'y a plus rien. Tous ces peuples-là, ils ont cessé d'exister. Pourquoi? Parce qu'ils ont été arrachés, ils ont perdu leur identité. Mais le peuple juif, ça voit clairement qu'il n'a pas perdu son identité. Donc forcément, ça veut dire que la galoute, c'est un état temporaire qui a une contrainte extérieure. Ça, c'était où est-ce qu'on s'était arrêté. Ouais. Et encore une remarque qui fait à part ça, c'est que le fait d'être asservi, c'est une situation pas naturelle. Un peuple, naturellement, il ne supporte pas d'être asservi. C'est pour ça que tous les grands empires colonialistes, à un moment, ils ne tiennent plus. Parce que parce qu'en fait, tu as besoin tout le temps de maintenir le peuple que tu colonialises, tu as besoin de le maintenir dans un état de servitude. Et si tu arrêtes une seconde, paf, ouais, c'est le principe de la cocotte minute. Tu as besoin de les contraindre chaque instant à être soumis. Et si tu relâches ton attention une seconde en pensant que c'est fini, ouais, bah ça saute. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Yadoa teda ki gari ezarecha, yadoa shani mefazran, teda shani mekapsan. » Puisque tu vois que je vais les disperser, forcément, ça veut dire que je vais les rassembler. Parce que, puisque la dispersion, c'est quelque chose d'artificiel, bah forcément, dès que ça cesse, les Juifs, naturellement, ils vont se remettre ensemble. Si la dispersion du peuple juif, c'est leur état premier, alors, dès qu'un juif y part, il est perdu, il est fini. Mais non, mais puisque c'est Hachem qui émet Fazer Otam, dès qu'il arrête, il arrête de les disperser, bah forcément, les juifs vont se remettre ensemble. La Géoula, c'est le fait que cette tension, elle arrête. Ouais, forcément, c'est nécessaire parce que sinon, ça voudrait dire, si une galoute a été éternelle, si la dispersion a été éternelle, ça voudrait dire que le peuple juif, il a cessé d'être le peuple juif. Et ça, c'est pas vrai. Ouais.
Donc, comment c'est une preuve? Parce que tu dis on est attaché à la terre, mais par exemple, moi, si tu me dis comment je suis attaché à la terre, c'est que je me rappelle quand j'étais petit, depuis le début de Torah, on répète toujours, je me rappelle encore les chansons. Eretz Avatrad Vache, la terre d'Israël, après tu vois dans la Torah, c'est constamment qu'on inculque ça aux enfants depuis le jeune âge. Peut-être c'est ça qui fait le lien avec pourquoi les gens ils ont toujours ce. Voilà, tu prends n'importe quel.
Mais je te demande,
tu sais. Il y a par la Torah et par l'école.
Alors,
aussi.
Tu vas, il y a une ville.
Est-ce qu'en Italie, tous les matins.
Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Boston. Ouais, c'est une ville d'Irlandais. Une ville d'Irlandais, vraiment. Ils ont tout gardé, ils ont encore les célébrés. Non, pas c'est pas irlandais. Mais ils ont vraiment la culture irlandaise, etc. Mais tu leur demandes c'est quoi leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont. Leur grand-mère, elle leur chantait les comptines, etc. Et les chansons, et la nourriture, elle est irlandaise. Tu peux avoir la bière irlandaise, ouais, t'as tout. Ouais. Et t'as la parade pour leur jour. Ouais, ils avaient un saint qui s'appelait Patrick, ouais, c'est la grande parade, etc. Ouais, mais tu leur demandes c'est quoi le pays. Est-ce qu'ils seraient prêts à... Est-ce qu'ils ont envie de retourner en Irlande? Ah non, mais je suis très bien, oh, ça va. Hein. Ouais, ils ont pas d'équipe de basket là-bas en Irlande, ouais. Ils n'ont pas d'équipe de basket. Ça veut dire... Pardon, excusez-moi. Ça veut dire que le fait qu'on ait été baigné dedans, ça suffit pas. Désolé. Les Italiens aussi. Les Italiens en Amérique, ils ont la culture et les machins et les trucs. Mais est-ce qu'ils veulent aller habiter à Naples ou à Rome? Non, tu verras, il n'y en a pas qui font pas. Ouais, il n'y a pas une contre-migration qui va de... T'as pas un Américain qui a fait fortune qui va retourner habiter à Rome. Ouais, qui va prendre sa retraite à Rome ou à Naples ou en Sicile. Ouais, alors que les Juifs, dès qu'ils peuvent, ouais... Alors quoi, dès qu'ils sont arrivés à la retraite, le rêve de la majorité des Juifs, c'est dès qu'ils sont arrivés à la retraite, je vais habiter en Israël. Ça, avec les Italiens, il n'y a pas. Alors que pourtant, ouais, la culture et les machins, et même le. Il y a une culture italienne qui est très forte aux États-Unis, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Il n'y a pas une diaspora italienne. Alors qu'il y a une diaspora. Il y a une diaspora juive. C'est-à-dire qu'un Italien qui est parti en Amérique, au fond, c'est un Américain d'origine italienne. Mais c'est un Américain. Et tu lui proposes, tu lui dis, écoute, t'as pas de problème. Ouais, tu vas habiter là-bas, t'as les meilleures pizzas, les meilleurs trucs, t'as tout, voilà, tout ton. Toute ta cul. Voilà. Non, mais moi je suis un Américain, au fond. C'est bien, je suis d'origine italienne, je suis fier de mes origines, etc. J'ai révisité peut-être, mais de là à faire le pas, ça y a pas. Donc en fait, les Juifs, ils sont différents. C'est-à-dire de dire que c'est culturel, ça suffit pas. C'est-à-dire que intrinsèquement, ça nous parle. Ouais, ça nous parle. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a encore. Il y a encore cette attache-là, et donc forcément c'est quelque chose d'artificiel, parce que si ça avait cessé d'être artificiel, ces liens-là, ils auraient été rompus. Si, Béhémeth, le peuple juif, il avait cessé d'exister en tant que le peuple de la terre d'Israël, en tant qu'un peuple uni, en tant qu'un peuple libre, ben en fait, c'est, faut pas le dire à voix très haute, mais le Netziv, il dit quelque part que, pourquoi est-ce qu'on dit, Knaan, c'est Eved Avadim Yelecha, il dit, mais tous les peuples, ils ont été asservis à un moment ou à un autre. Mais en fait, tous les peuples, ils ont saisi leur liberté dès que c'était possible. Knaan, il saisit pas sa liberté. Quand on lui donne, il sait être libre. Quand on lui donne, il sait être libre. Mais il n'est pas capable de saisir sa liberté. En tout cas, ouais, c'est-à-dire que Knaan, fondamentalement, leur condition d'esclave, elle leur plaît. Ça leur va, c'est ouais, c'est naturel. C'est naturel. Alors que la majorité des peuples, quand ils sont asservis, comme on a dit, il faut leur imposer ça. Et à la seconde où ça lâche, bah, ils se révoltent. Donc le peuple juif, ça envoie qu'il y a ces trois conditions-là, qu'il a encore une terre auquel il aspire mais qu'il ne peut pas vraiment avoir, même aujourd'hui. Ouais. Le peuple juif n'est pas en contrôle de la terre, on le voit tous les jours malheureusement. Le fait que malgré tous les efforts, c'est-à-dire qu'il y a une désunion qui n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on regarde encore une fois, c'est-à-dire que 2 mois après le 7 octobre, on était là, mais comment c'est possible qu'il y ait c'est-à-dire une haine pareille qui sort, quoi. C'est-à-dire, on a eu 2 mois où on était sous le choc, on a oublié qu'on se disputait, et puis ça a repris de plus belle. Et puis il y a le fait que Sakhakol, ouais, c'est un peuple qui n'est pas libre, qui doit. Même aujourd'hui, la Médina, ouais, le gouvernement israélien, il n'est pas libre, il est beaucoup plus soumis à plein de règles que n'importe qui. Ouais. La France, si elle veut dire à l'Union européenne d'aller se faire voir, elle le fera. Ouais, ils ont juste pas envie parce qu'ils ont, ouais, ça les arrange les dirigeants. Mais fondamentalement, les Allemands ils font ce qu'ils veulent, les Italiens quand ça leur arrange, chacun il fait un peu ce qu'il veut. Non mais ouais, les Israéliens si, ils font pas ce que le monde veut, c'est un scandale. On reste asservi, on reste asservi, on reste sous contrainte. Et ça c'est quelque chose de pas naturel. Et donc quelque chose de pas naturel, c'est une contrainte extérieure. Les contraintes elles finissent par disparaître. Parce qu'une contrainte qui ne disparaît pas, c'est plus une contrainte, c'est une loi. C'est-à-dire que Dieu, il a changé les règles du jeu. Que tu as un pays, qui t'as un peuple qui n'a pas de terre, mais qui désire une terre. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas un peuple qui a cessé d'exister. C'est un peuple qui veut aller quelque part, et qui, mais la loi de la nature, c'est qu'il ne peut pas y aller. Ça voudrait dire que Dieu, il a changé les règles du monde. Et il dit, si on regarde les deux mots, Gala, c'est être exilé. Ouais, alors regarde, on est où? On va avancer. Et tout ça, tu comprendras qu'il lâchonne gala. Gala, c'est être exigé, exilé. Velachon gal au tioch neem. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, Aleph et He, c'est Mitra-Aleph. Ouais, le Aleph et le He, ils sont interchangeables dans certaines conditions. Et sinon, c'est quoi le Icar? C'est Gimel, Lamed. Ouais. Donc, Gala, c'est être exilé. Gal, c'est libéré. Et ça, les mêmes lettres. Et la seule lettre qu'il y a, c'est. On est passé du Aleph au He. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Sauf que quoi? Parce que Gal, c'est un remède que quoi? Que Dieu les a sauvés des quatre coins de la terre. Et il l'assemble, il unit leur dispersion. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que. Les deux, c'est le même concept. Galout et Géoula, en fait, c'est le même concept, mais c'est deux déclinaisons du même concept. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit tu as, pardon, tu as le Guimel et le Lamed, et au milieu, tu as un Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as quelque chose qui vient rassembler ce concept, on va expliquer, qui s'appelle Gimel Lamed. Il a à son centre quelque chose d'unificateur. Ouais, galé, gal. Ouais, en fait, ça veut dire dévoiler. Gal, c'est une lâche en gilouille, c'est un dévoilement. La Geoula et la Galoute, c'est des dévoilements. Mais quand on a Gal, ce dévoilement, il a quelque chose qui le maintient. Il y a quelque chose en son centre qui unifie le tout comme le centre d'un cercle qui va définir tout le cercle. Ouais. Mathématiquement, un cercle, c'est quoi? C'est un point et un rayon. Une fois que j'ai un point et un rayon, je n'ai même pas besoin de tracer le cercle, je le connais. Donc en fait, ici, le Aleph, il sert de centre au Gilouille. Le Gilouille, il est cohérent. Le Gilouille, il est cohérent. Ouais, comme un cercle, c'est-à-dire quelque chose au centre qui maintient tout en place et qui organise tout autour de lui. Ça, c'est la Geoula. Ouais, parce que c'est un Gilouille qui est cohérent, qui est clair et qui est uni. Il y a un thème qui va unir toutes les facettes du dévoilement. Il va falloir dévoiler, expliquer ça, mais voilà. Donc, quand c'est au milieu, c'est l'idée de la cohérence, du rassemblement. Et à l'inverse, Gala, c'est quoi? C'est He.
Il est extérieur.
C'est à l'extérieur. Le He, la lettre en plus, elle est à l'extérieur. Et le He, c'est quoi? C'est en fait, c'est He, c'est Dalet, Yud. Dalet et Yud, ça veut dire quoi? Dalet, c'est les quatre côtés et le centre. C'est-à-dire qu'en fait, le He, quelque part, il y a quelque chose qui part du centre vers l'extérieur. Il y a une idée d'éclatement. Ouais. Ce monde, il a été créé avec un He. Pourquoi? Parce que c'est un monde éclaté. C'est un monde éclaté. C'est-à-dire qu'on a... Avant, on a au début, on avait, avant qu'il y ait le monde, Hachem était Echad, et quand il a créé le monde, il y a eu un éclatement dans toutes les directions. Ouais. Donc, c'est le même concept, mais il y a un concept qui passe. Donc, c'est le même concept de guilouille, de dévoilement, mais la Geoula, c'est un dévoilement qui passe par le rassemblement, par la cohérence. Et la galoute, gala, ça passe par l'éclatement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as d'abord besoin de faire éclater quelque chose pour pouvoir le rassembler. Pourquoi? C'est quoi l'idée? L'idée, elle est comme ça, c'est que quand on est confortable, quand on est sur sa chaise, voilà, on est sur son fauteuil, alors il y a des choses qui sont devant nous, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas, parce qu'on y est trop habitué. Quand on est confortable, il y a plein de choses qu'on pourrait voir, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre confort, on est dans notre routine. Donc on a besoin de faire éclater la vie, éclater notre confort. Comme ça, tous les aspects de notre existence, chacun indépendamment, il y a des choses dans notre vie qui nous interpellent. Quand est-ce qu'on est interpellé? Quand il y a un éclatement, quand les choses de la vie, elles ne sont pas comme on aurait voulu. Donc là, quand tout, Olam qui minagonoem, quand on est dans la routine, il se passe plein de choses, mais on n'est pas à même de les percevoir parce qu'on y est habitué. Quand ça éclate, quand notre vie, elle vole en éclats, alors à droite et à gauche, de tous les côtés, on voit des fragments de vie qui nous interpellent. On dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Comment ça se fait que c'est comme ça? Ouais, ça c'est la galoute. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait éclater le noyau de notre vie pour révéler qu'en fait, il n'est pas aussi uniforme, éterne et banal que ça. Ça, c'est la galoute. C'est un mouvement vers l'extérieur. Mais une fois qu'on a identifié toutes ces pièces de notre vie, de l'existence qui valent la peine d'être étudiées, il faut les rassembler. Il faut en refaire quelque chose qu'on va faire, on va en faire un guilouille cohérent. Notre vie, on a plein de petits moments comme ça, on comprend des choses dans notre vie, on comprend des choses dans la religion, on comprend des choses dans le rapport avec Dieu. Et ça, c'est la galoute. Parce que, mais sinon, si on n'avait pas des choses bizarres qui se passaient dans notre vie, on ne le verrait pas. Ça, c'est la galoute. Et à la fin, on prend tout ça et on le rassemble. C'est pour ça que c'est les mêmes lettres. C'est un guilouille. Mais d'abord, ça passe par l'éclatement avant d'être unifié, d'être rendu cohérent. C'est ça l'idée que c'est les mêmes mots avec des lettres qui diffèrent. Mais qui en fait sont pas tellement différentes. Ouais. Donc, comme on a dit, donc pourquoi est-ce que le He, le Gala, c'est Gal He? Parce que c'est dans les quatre directions. Parce que quelque chose qui est éparpillé, il est éparpillé aux quatre coins du monde, dans toutes les directions. Ouais. On a l'habitude de dire, j'ai souvent entendu en français cette expression, que quand le Maral il parle des quatre directions, en fait c'est le champ des possibles. Ouais. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu peux aller devant, tu peux aller derrière. Donc, tout ça ensemble, ça te fait un champ des possibilités. Et donc, quand le peuple juif il est éclaté dans toutes les directions. Notre existence est éclatée dans toutes les directions. Il n'y a aucune direction, justement, c'est dans tous les sens. Ouais. C'est-à-dire qu'on a en même temps des juifs qui sont ultra-capitalistes et George Soros, qui est le plus grand anti-capitaliste, anti-tout du monde. On a tout. On a les juifs les plus capitalistes, les juifs les plus marxistes. On a les juifs les plus religieux et les personnes les moins religieuses et moins spirituelles qu'on connaisse. Comment ça se fait? Parce que c'est ça l'idée, qu'il y a eu un éclatement. Et en fait, partout on peut trouver un Giloui. Ouais. Donc, mais bien que le milieu... Alors pourquoi est-ce que c'est le hé? Logiquement, on devait dire Galad, oui, parce que c'est dans les quatre directions. Pourquoi c'est un hé? Parce que justement, le hé, il est éclaté dans toutes les directions, mais il a un centre. Ouais, Dalet, Yud, il y a quelque chose au centre. C'est-à-dire qu'on est éclaté dans toutes les directions, mais on n'est pas, mais il reste quelque chose qui nous relie. Il y a un centre. Le peuple juif, dans tout son éclatement, au fond, quelque part, ils se reconnaissent. Ouais, les goyim, ils ne comprennent jamais pourquoi est-ce que le commerce est toujours une affaire de juifs. Parce que des juifs de deux pays, ils peuvent commercer ensemble. Parce qu'ils ont quelque chose, ils ont une langue, ils ont quelque chose qui les relie. Donc historiquement, toujours, c'était qui commerçait, c'était les juifs, parce qu'ils étaient capables de commercer entre différents pays. Ils avaient une langue, c'est la première langue internationale de l'histoire, c'est l'hébreu. Ouais, bah oui, mais oui. Historiquement, les commerçants, ils étaient toujours... C'est pour ça que dès qu'il y avait un pays qui voulait se développer, il voulait développer son commerce, il faisait appel aux juifs. C'est par exemple comme ça que les juifs sont arrivés en France circa 900, parce qu'ils ont voulu, les rois français ont voulu développer le commerce, pour pouvoir développer l'économie de la France, et ils ont fait appel aux juifs qui venaient d'Italie. Les juifs ashkénazes, ils étaient en Italie depuis très longtemps, peut-être même avant le Robat Beit Sheni, et ils sont montés en France. Pourquoi? Parce que tu veux du commerce, tu veux des juifs. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose, ils sont capables de communiquer, même quand deux juifs, même s'ils ne se connaissent pas, et même s'ils ne s'apprécient pas franchement, mais ils sont capables de communiquer. Et ça, c'est l'idée du hé. C'est qu'en fait, ça part dans tous les sens, mais il y a encore quelque chose au centre, il y a encore quelque chose, il y a encore un noyau. Ouais. Ouais. Quoi? D'accord, ouais. Longue journée. Et du coup, en fait, ça sort que même la Gala, ouais, le peuple juif, il a été exilé. Ben en fait, dans le hé, qui symbolise l'éparpillement, il y a un point qui vient te dire, oui, mais c'est pas total, l'éparpillement, il n'est pas absolu. Il y a encore quelque chose qui les relie. Il y a encore quelque chose qui les relie entre eux. Donc, en fait, ça qu'on a dit, que dans le Gala, il y a un éparpillement, mais qui a un centre. Il y a un centre auquel, en fait, on est tous connectés.
J'avais toujours pensé que, comme elle dit dans c'est le mot, quand la Géoula c'est le Aleph, je pensais que pour avoir la Géoula, il fallait ce Aleph, justement. Transiter.
Du Hé au Aleph. C'est ça.
C'est la clé de.
C'est ça. Donc il dit, et donc c'est il y a quelque chose de très particulier, que le Gala et le Gal, en fait, c'est le même principe, juste que c'est deux moments de la même chose. Il y a un éclatement qui est suivi d'un retour. Et en fait, l'éclatement, il a toujours le retour en potentiel, puisque c'est le centre. Le retour vers le centre, il est déjà meroumaz, il est déjà allusionné dans le hé de l'éclatement.
Dans le yud du hé.
Voilà, dans le yud qui est au centre du hé.
Mais est-ce que la galoute, c'est une conséquence de quelque chose, ou c'est un projet? Quoi qu'il se passe, c'est un projet.
Les questions...
C'est toutes ces questions, en fait, il va essayer de résoudre toutes ces questions-là. C'est quoi, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on doit passer par là, qu'est-ce que ça veut dire, et comment est-ce qu'on s'en sort, en fait. C'est ça, c'est les questions qui va les occuper. C'est, en fait, ce Sefer, il s'occupe de Galout et Géoula.
Tout ça,
c'est... Tout ça, ouais, tout ce livre. Alors, donc ici, c'est pour ça que c'est les mêmes lettres, et le Galas avec un « et », pour dire qu'on est éparpillé dans tous les sens, mais même maintenant, il y a déjà le centre, il est encore là. Le centre, on n'a pas perdu le centre. Et c'est ça qui relie tout ensemble. Et c'est comme on a dit, que le hé, il est messamel, il symbolise le fait que le pizour, l'éparpillement et la haine et la sinatrinam du peuple juif, ils sont pas absolus. Ils sont quelque chose, il y a un éparpillement, il y a une force qui les éparpille, mais en fait, ils sont encore reliés et ils sont encore attirés les uns vers les autres. Parce qu'ils ont quelque chose de commun. Parce que si, en fait, l'éparpillement était définitif, alors on aurait un dalet, on n'aurait plus de hé. Parce que quelque chose qui est complètement éparpillé, il n'a plus de centre. Il n'a plus de centre. Il a perdu son centre. Donc le fait que c'est un hé et pas un dalet, ça signifie, ça symbolise ça, que la hardou du peuple juif, elle est encore là. Donc il y a deux idées qui sont importantes ici. Gala et Gal, c'est la même chose. C'est deux formes de Gilouim successifs. D'abord, le Gala, l'éclatement Et après, on rend cohérent tous les guilouïms qu'on a eus. Ouais. Tout ce qu'on a vécu dans la galoute, ça sera rendu cohérent par la Géoula. La Géoula, c'est justement, on prend toutes tous ces morceaux de vie, tous ces morceaux de... En français, il y a un mot qui, à la base, qui est chrétien, mais c'est une épiphanie. L'épiphanie, c'est le fait de faire une expérience divine dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais tous ces moments-là, tous ces guilouïms-là, qu'on a vécu, et Gaal, c'est qu'on les prend et on en fait quelque chose de cohérent. Et la deuxième, c'est que même dans le gala, dans le hé du gala, il y a un point qui relie, qui limite l'éclatement qu'il y a. Alors, ici, on dit, le Midrash, il dit comme ça. Qu'est-ce que Yaakov, il a vu pour enterrer Rachel sur la route? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas amené la Marat à Marpella? Il l'a enterré sur la route. Mais il a vu que les Galuyot, ils vont passer par là-bas. Et il l'a enterré pour qu'elle demande miséricorde sur son peuple. C'est ce qui a marqué. Kol berama nishma. Ouais, il y a une voix qui sort de Rama. Nei bechit amurim, un pleur amer. Ouais. Rachel mevakal benéa, meanali inachem, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Mini kolach mi bechi, viyash tigva la chariter. Il y a un espoir pour ta fin. Et leurs enfants, ils reviendront à leur goul. Ouais. Alors il dit, c'est quoi ce midrash? Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash? T'as Rachel qui pleure et Dieu il dit, ouais, je t'ai entendu, mini colère mi béchi, et Naïm il dit, arrête de pleurer, que tes yeux ils arrêtent de faire tomber des larmes, qui est chachar li pou la terre, et shtikva, il y a un espoir à ta fin, veshavu banim li gvulam. Il dit, c'est quoi ça? Ouais. Qu'en fait, le peuple juif, il s'appelle au nom de Rachel. Ouais. Et pas seulement au nom de Rachel, mais au nom des enfants de Rachel. Le peuple juif, on l'appelle Ephraim, c'est un des psukim des Zichronot. Aben Yakirli Ephraim, Imielet Yashuim, Zachor Eskerenuod. Ouais, je m'en souviendrai. Donc, tout le peuple juif, son caractère fondamental, il existe en tant que. On appartient en fait, on est assimilé d'une certaine manière à Ephraim. On nous appelle les Yehoudim, mais fondamentalement, on est qui on est, comment est-ce que le peuple juif il est identifié en tant que. Ephraim, c'est tout le peuple juif. Il a une appartenance, tout le peuple juif, de quel chevet qu'on vienne, ouais, on a une appartenance à Ephraim. Becha yevarech Israël, yesimcha elokim k'Ephraim v'chim nashe. Ouais, Becha, c'est tout le peuple juif par qui il vit, par Ephraim. La bracha, elle passe par eux. Ouais. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça que le peuple juif, il est affilié à Ephraim? Il dit parce que c'est quelque chose, c'est Ta'amouflag. Quand le Maral il dit Ta'amouflag, ça veut dire il va nous dire vraiment quelque chose qui reste à la surface. Ouais, c'est-à-dire que comprenez que le Maral dit, comprenez, je vous dis Ta'amouflag, c'est quelque chose qui va très loin. Et que quand on analyse jusqu'à où ça va, c'est des choses terribles, enfin des choses tristes, des choses grandioses. Ouais, la Gemara elle dit la femme, ça s'appelle la maison. Ouais, comme la Gemara dit dans le Shabbat que Meolam lo karati leishti ishti rak leishti beti. Il disait pas ma femme, il disait ma maison. Parce que ma femme, oui, mon épouse, ma femme. Non, non, c'est ma maison. Ouais. Un SDF, il ne vit pas. Un SDF, il n'a pas de vie. Il n'existe pas. Ouais. Un SDF, il n'a pas de vie. Il n'existe pas. Il n'a pas de. Il a ni dehors ni dedans. Alors que quelqu'un qui n'a pas de femme, Keilu, il n'a pas de chez lui. Il n'a pas de chez lui. Sa femme, c'est son chez lui. C'est ça, c'est son ancrage dans le monde. Ouais. Et Rachel, c'était l'essentiel de la maison de Jacob. Comme on dit, Rachel a été à Keret Abayit. Ouais. Moshivi à Keret Abayit, c'est quoi? C'est l'essentiel de la maison, le hikar de la maison, l'ancrage de la maison. Mais oui, la Gemara, Rachel Akara, Ikara Rachel. Oui, mais Rachel Akara, Chachamim ils sont d'Orshim, le hikar c'était Rachel. Rachel, oui, c'est stérile. On va parler de ça, mais il y a une bascule ici entre Akara, qu'elle était stérile, et le fait que c'était l'essentiel. Parce qu'en fait, justement, le peuple juif, ça c'est une idée qui est développée Rav Dessert, il la développe longuement, que le peuple juif, son existence, elle tient au Nes. Elle tient du miracle. Et c'est pour ça que Rachel, tous les Avot, tous les Imaot, elles ont du mal à enfanter Sarah, Rivka et Rachel. Léa, elle n'a pas eu tellement de mal. Ouais. Elle n'a pas eu tellement de mal. Pourquoi? Parce que même si la Pachlout, c'était oui un S, mais c'est moins, il y avait moins.
Pour Essav en principe.
Non, parce que va Tiftach et Drachma aussi. Parce que va Ra qui se noie à Léa, et Hachem lui a ouvert son Rechem. Mais c'était plus facile parce que Béhémeth, le peuple juif, il doit passer par le Ness. Donc Rachel, qui était l'essentiel, qui était celle qui était destinée à faire naître en fait les 12 Shvatim, elle, elle était stérile parce que justement, il fallait quelqu'un de stérile pour que la naissance, elle se fasse dans le miracle. Donc ça, c'est la preuve. Le fait qu'elle était stérile, ça montre qu'en fait, c'était celle qui était destinée à Yaakov, paradoxalement. Pourquoi ? Parce que c'était une... parce qu'elle était stérile, mais elle était prédisposée au miracle. Elle était prédisposée au miracle. Et donc, tout celui qui s'appelle la maison, elle rassemble. La maison, elle rassemble tout ce qu'il y a dedans. Dehors, il y a plein de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Toutes les personnes qui sont dans une même maison, elles sont, on dit elles sont rassemblées sous un même toit. En français, dans le texte. Ouais. La maison, elle rassemble, elle fait un, une société cohérente. Les gens qui sont dans une même maison, ils partagent quelque chose, ils partagent une existence. Ouais. La maison, elle rassemble ceux qui vivent dedans. Ouais. Et le peuple juif, donc, il s'appelle au nom de Rachel parce que c'était l'essentiel de la maison de Yaakov. Et en fait, ce qui rassemble le peuple juif, Léa, elle avait plein d'enfants. Chaque enfant, elle avait son caractère particulier. Chaque enfant, elle avait son caractère particulier. Et chacun, il pouvait aller dans toutes les directions. Ce qui fait qu'en fait, tous, ils sont tous rassemblés sous l'égide de la maison de Yaakov. En fait, c'est Rachel. Rachel, c'était ça son caractère, qu'elle prenait toutes ces choses-là, toutes ces choses disparates, tous ces caractères disparates, et en fait, elle, elle réunissait tous les fils sous une même bannière. Donc en fait, cette ardoute du peuple juif, ici dans mes notes, il ramène que Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, on elle, elle a le nom de Rachel. La Knesset Israël, elle a le nom de Rachel. Comme ça, ça veut dire, c'est-à-dire que Rachel, c'est ça, son essence. Ouais. Et donc, puisque Rachel, c'est elle qui réunissait tous les enfants de Yaakov sous la même bannière, parce que ça s'appelle la Keret Abayit. C'était Rachel.
Si c'est pas ses enfants.
C'est pas ses enfants, mais en fait, elle avait ce truc-là que elle tenait la barre. Que chacun, il peut pas faire ce qu'il veut.
Comme si sans elle, y a rien. Quoi.
Que si tout le monde part dans chacun, sinon il y aurait un éclatement. Chacun des Shvatim, il serait parti dans sa propre direction. Chacun des Yud-Bet Shvatim, il avait un caractère très particulier, très affirmé, complètement individuel. Et ce qui les a empêchés de partir chacun dans une autre direction, c'est Rachel, et plus tard, en fait, c'est Yosef. Parce que Yosef est Achay Anochim Evakesh. Moi, je recherche mes frères. Donc, je suis celui qui va faire le lien avec les frères. Et après, t'as les 10 frères qui vont chercher, qui amènent Binyamin. Donc, en fait, pour trouver Yosef, pour Yosef. Donc Yosef, et après ses descendants, c'est toujours ceux qui ont le boulot de rassembler et de rappeler aux gens que quoi que vous fassiez, vous êtes juif. Quoi que vous fassiez, vous appartenez à un peuple. Et ça, c'est Rachel, et ça, c'est Yosef. Ça, c'est...
Ils sont partis en galoute.
Oui.
On a que Yehuda et Binyamin, finalement.
Oui, mais il reste que... Alors, on verra comment ça se passe. Ouais. Mais c'est-à-dire que fondamentalement, cette chose-là, cette expérience-là, elle vient de cette partie du peuple juif qu'incarne Ephraïm. Ouais. Après, comment est-ce que ça se réalise dans le concret, ça, il faudra voir. Mais le concept de Hardout, c'est un concept qui est incarné par Rachel et par Ephraïm après. Donc c'est pour ça que tout le peuple juif, il s'appelle...
Ephraïm, on ne le voit pas trop, non
dans... Aben Yakirli Ephraïm. Ouais. Bechaï et Varech Israël, Bechaï et Varech Israël, Yisimcha Elohim, Kephraïm et Chimnaché.
Pourquoi tu passes que par Ephraïm, s'il y a Yosef, Ephraïm et Ménaché, pourquoi il choisit Ephraïm?
Parce que, ça c'est une question, pourquoi est-ce qu'Ephraïm plus que toute autre chose? Okay. Mais en tout cas, c'est chez les enfants de Yosef. C'est-à-dire que la vraie épouse de Yaakov, celle qui donne son identité, celle qui réunit, qui donne une consistance en fait au peuple juif, c'est la femme de Yaakov, c'est Rachel, parce qu'elle, elle est la maîtresse de maison. Qu'elle soit appréciée ou non. Mais il y a des fois, c'est comme ça, il y a des familles où les choses sont un peu compliquées, mais t'as quand même un qui tient la barre. Ouais. Pas tout le monde s'entend avec lui, mais il tient la barre. Ouais. On fait pas ce qu'on veut ici. Il y a quelque chose qui nous rassemble. Ouais. Parfois, il y a des grandes familles, parfois la belle-mère, elle fait peur, mais c'est quand même elle qui va garantir. Et parfois, avec les belles-mères, pas tout le monde s'entend avec ses belles-mères. Mais elle garantit quand même qu'à Pessah, pas tout le monde se tape dessus. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que des fois, des beaux-frères, ils se supportent pas. Des fois, des frères et des sœurs, ils se supportent pas. Ouais. Mais quand ils sont chez les parents, Il y a quelqu'un qui tient la barre, tu fais pas ce que tu veux.
Après l'abord d'un grand-parent, tu peux voir le désordre que ça fait.
Mais oui, mais oui. Mais moi, j'ai... mais tu sais que moi, c'est très drôle. Mais tu dis ça, mais moi, il faut qu'on avance un peu. Mais moi, j'avais un groupe, on avait un groupe de la famille Frankel, la famille de ma mère. Et il est tombé en désaffection après la... C'est-à-dire qu'il était très actif. Et quand ma grand-mère est décédée, bah, de temps en temps, tu as des petits messages, mais il est beaucoup moins vivant. C'est-à-dire le liant de la famille, il a complètement... Il a complètement volé en éclats. C'est-à-dire qu'elle était, elle était vieille, elle n'était pas en forme, elle avait Alzheimer, etc. Mais c'était encore des frères et des sœurs qui étaient, qui voulaient faire plaisir à leur mère. Et puis, quand elle n'est plus là, les choses, les liens, ils s'affaiblissent quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que Rachel a été enterrée en chemin. Parce que si elle avait été enterrée dans la Mehara, mais pas en chemin, alors... Il n'aurait pas été là où Israël les ont besoin. Israël, quand ils partaient en Galoute, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de rencontrer Rachel. Quand ils partent en Galoute, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de Rachel qui dit attends, ça ne va pas se passer comme ça. Ouais. Elle pleure, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle dit à Dieu, je n'accepte pas qu'ils soient dispersés. Elle plaide pour l'unité du peuple juif. Même quand ils partent en Galoute, même quand ils partent pour être dispersés à quatre, aux quatre vents, mais Rachel est là pour dire à Dieu, écoute, ça va pas se passer comme ça. Parce que la galoute, c'est l'éparpillement, c'est l'éclatement. Comme on a dit que c'est gala, c'est gal, gilouille, aux cinq directions. Ouais, aux quatre directions du centre, vers les quatre points cardinaux. Mais Rachel est là et dit, écoute, ça va être un éclatement, mais il faut qu'il y ait un centre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Elle dit, oui, c'est comme ça que ça marche. Bémet, minikolar mibéhi, grâce à toi... Grâce à toi, Veshavu Banim Ligvulam, il y aura un retour. Ouais. Il y aura un retour.
Le fait qu'elle soit en chemin.
C'est parce qu'il fallait qu'elle soit. Parce que c'est à ce moment-là qu'on avait besoin d'elle. C'est à ce moment-là qu'on avait besoin d'elle. C'est ça, ça.
On voit que Yosef aussi, il pleurait beaucoup dans la paracha. Et Rachel, ouais. Elle pleure. Mais c'est le descendant de Rachel.
Voilà. C'est le fils de Rachel. Mais il y a une idée profonde ici qui est que la place où quelqu'un est enterré, la tzadik est enterré, c'est là en fait qu'il a un impact sur le monde. Là où il est, il a un impact particulier. Ouais, c'est pour ça que Avraham il s'est battu pour avoir la Marat Amarpella. Et c'est marrant que, qu'est-ce qu'on nous dit? La Marat Amarpella que Avraham il a acheté dans Vayéchi. On a besoin de nous rappeler que Avraham il a fait l'acquisition de cette terre Beit Bnechet, et on nous le rappelle. En fait, Rashi nous dit qu'il y a une prise de tête monumentale avec Esav aussi pour l'acquérir. Que Yaakov en fait il a acheté à Esav, et c'était pas évident. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'est l'endroit où Yaakov, il peut. Quand on dit que Yaakov, il est encore en vie, c'est par cet endroit-là. Les endroits, ils ont une hache pas. Les endroits, ils ont une hache pas. Là où t'as dit qu'il est enterré, c'est ça, cet endroit où il continue à avoir une emprise. Ouais. Il continue à avoir une emprise sur le monde de par l'endroit où il est enterré. Quelqu'un, il passe par là-bas. Des fois, il est enterré quelque part. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui passe par là-bas, il voit, et ça lui parle. Il se passe quelque chose. Ouais. On passe à côté. T'as le peuple juif qui est en exil de Yerushalayim et il passe sur le chemin et hop, il fait la rencontre, il fait l'expérience en fait de la tombe de Rachel et en fait, il fait l'expérience en fait de la Mida de Rachel qui est à l'œuvre. Ouais, c'est-à-dire que l'endroit où il est enterré, c'est l'endroit où ça s'exprime le plus.
Il y a 500 galoutes, pourquoi c'était important qu'elle croise cette galoute-là?
Mais c'est parce que c'était la première des galouillottes, on va voir. Alors, on va continuer un peu, il nous reste 10 minutes. Deuxième Pérec. Il dit comme ça. Alors il dit d'accord.
Achour, c'est la première galoute.
C'est Babel la première.
Achour, ça correspond à quoi? La Syrie.
C'était quoi? C'était Sennacherib. Avant Sennacherib. Si on parle quoi? Achour, c'est Sennacherib. Tu parles ou tu parles Babel?
Non, là, je parle Achour. Galoute Achour.
On verra. Okay. On verra. On va passer pas tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en galoute? D'accord. Maintenant, la galoute, c'est un état d'éparpillement. Pourquoi est-ce qu'on s'y retrouve? Ça, c'est clair dans les psukim, que pourquoi est-ce qu'on est en galoute? À cause de la faute. Arsibat asiban elamimenu. Ouais. Mais donc, le pourquoi de la galoute, c'est la faute. Mais le pourquoi de la faute, ça, il n'est pas clair. Les psukim, ils disent pourquoi est-ce qu'on est en galoute? À cause de la faute. Mais si on réfléchit, la faute, c'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi? Il va expliquer ça. Parce qu'en fait, il y a besoin d'une grande. Il y a une grande question qu'on doit poser. Quand on recherche et qu'on inspecte le monde, on voit que l'ordre des choses, il est relativement établi. Il n'y a jamais vraiment de révolution, rarement. Ouais. Les révolutions, elles en sont rarement des révolutions vraies. Ouais. Toujours la même chose. Il y a toujours eu, les Français, c'est-à-dire, ils ont toujours été un peuple qui était instable. C'est juste il a fallu qu'ils réussissent à renverser le roi. Mais le caractère révolutionnaire des Français, il n'a pas changé. Il est toujours comme ça. Les Français, ils ont toujours ce caractère-là. Il y a des choses qui sont des constantes. Les choses, elles sont... Chaque génération, ils pensent qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre. Chaque génération, ils se rebellent contre ses parents comme si on est la première génération à avoir compris. Ouais. Et les parents qui s'étaient rebellés contre leurs parents, bah, ils sont devenus leurs parents. Ouais. C'est toujours comme ça. On dit un jeune qui est de droite, il n'a pas de cœur, et un vieux qui est de gauche, il n'a pas d'intelligence. Ouais. Donc, les choses, elles sont « Olam kiminago noeg, enkol chadash tachat hashemesh ». Les choses, elles sont à leur place. Ouais. L'enfant d'un cheval, c'est un cheval. Ouais. L'enfant d'un cheval, c'est pas un âne. Et un âne, il donne pas naissance à un cheval. Un homme, t'as jamais vu un homme qui naît d'un animal. Et vice-versa. Tu plantes du blé, tu reçois du blé, tu recevras pas de l'orge. Ouais. Etc, etc. Ouais, une vipère, ça donnera pas vie à un cobra. Ouais. Alors pourquoi les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, que tout le chorège du peuple juif, ça, c'est Kadosh Vetor, ouais, et des gens des tzadikim, comment ça se fait qu'on trouve chez eux des gens qui sont exactement l'inverse de leurs parents? Abraham, Yitzhak, aujourd'hui il y a des gens, c'est des gens bien, mais même chez les goyim, il y a des gens bien, mais il est advenu que ce sont des gens bien. C'est ce qu'on appelle, c'est un micré, c'est un événement, c'est de l'ordre du possible. Les gens, ils pourraient être bien comme ils sont pas, comme ils pourraient ne pas être bien. Quelqu'un, il est bien. Mais est-ce qu'il est fondamentalement bien? Est-ce qu'il est... Toute son existence, c'est une existence de quelqu'un de bien? Ça, c'est rare. La majorité des gens, ils sont bien parce que les circonstances, elles les ont pas menés à être mauvais. Les gens, ils sont bien. Il y a des gens, ils sont meilleurs. Mais il y a des gens bons, c'est très rare. Et là, on a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les Shvatim qui sont des gens bons, dans leur essence, c'est ce qu'ils sont. Ouais. C'est... Jusqu'à maintenant, c'est Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que c'est. Il incarne la bonté dans la création. Yaakov, il incarne la vérité dans la création. Il n'y a rien de plus absolu que ça. Et les descendants, on trouve des gens qui sont le contraire. Et plus que ça, ils disent que le peuple juif, il est plus mesugal, il a plus une tendance à la faute que toutes les nations. Ouais. Et plus que ça, ouais, il y a quelque chose de bizarre parce qu'en fait, quand on regarde, quand on prend statistiquement, on a. Statistiquement, quand tu as quelqu'un, hein, tu prends 1000 personnes, 1000 personnes bonnes, combien est-ce que de ceux-là, des gens qui sont bons, des bons parents, des bonnes personnes, combien de ces gens-là, ils auront des mauvais enfants, statistiquement? Ouais.
Très peu.
Très peu, relativement peu. Il y a toujours des choses qui sont pas contrôlables, mais relativement peu. Et là, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a beaucoup plus de Rechaim que ce qui était censé exister statistiquement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mystère ici. Ouais, c'est-à-dire que tu regardes et tu dis, lui, on doit, voilà. Hein. Et on a les Rechaim publicitaires, voilà, médiatiques, les Harvey Weinstein, les Jeffrey Epstein de ce monde, les Arnaud Mimand et autres. Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ouais, mais c'est-à-dire, vraiment, c'est une question. Comment est-ce que des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça peut être des ordures pareilles? Chaque fois qu'on voit quelqu'un comme ça, il faut se poser la question. Pourquoi eux?
Sans aller voir ce cas, même les proportions de juifs pratiquants, etc., elle a toujours été très faible.
Oui, mais c'est vrai. Non, elle n'a pas toujours été très faible. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dès que le ghetto il a explosé, ça, c'est... les gens ils sont enfuis du ghetto très vite. Et comment c'est possible? Et dans la majorité des époques, il y a eu statistiquement beaucoup trop de Rechaïm. Et puisque Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les bases, c'est les fondations de ce peuple-là, comment est-ce qu'on peut avoir des fondations qui sont absolument droites et d'un coup, ben en fait, t'as l'impression que tout est de travers? Comment c'est possible? En général, si les fondations elles sont droites, c'est très dur après, les briques elles font toutes la même taille. C'est-à-dire, tu construis, le principe c'est si tes fondations elles sont solides, elles sont droites, en général la maison elle suit. Et là, il n'y a rien qui va.
En fait, c'est un peu ragnac quand tu dis que les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça...
Mais c'est la réalité. Il dit, mais si on observe, c'est vrai que statistiquement, dit-il, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas des tzadikim dans le peuple juif qu'il y en a des gens qui sortent de la nature de la nation. Ouais. La majorité des Français, leurs enfants, ce sera des Français. Ouais. Des gens qui sont exceptionnels, qui vont complètement déborder des cadres. Ouais, ça arrive, mais 1, 2, Ouais. On n'a qu'à regarder, dire des Français exceptionnels, on n'a pas tant que ça. Ouais. La majorité, c'est des Français, ils sont un peu plus nuls, un peu meilleurs, un peu comme ci, un peu comme ça, mais. Pff, ouais. Voilà, c'est-à-dire ils ont tous l'écharpe autour du cou et ils sont persuadés d'être les plus grands philosophes du monde, ouais. C'est-à-dire que c'est dans le reste du monde, c'est presque un gag que tu vas croiser un Français, tu vas poser une question simple, il va se passer trois choses. Ouais, la première, c'est qu'il aura l'écharpe comme ça, mais la saute. Il aura une cigarette, il sera en train de philosopher. Ouais, c'est n'importe qui, tu vas poser une question.
Bon, ça, ouais.
Non, mais les Parisiens, les goyim parisiens, c'est, ouais, ils sont portés un peu à l'intellectualisme, ouais. C'est un stéréotype. Tu croises un Anglais, il aime la bière, fini. Ouais. Un Anglais, il aime la bière, c'est fini. Il n'y a pas à discuter. Un Anglais qui n'aime pas la bière, ça n'existe pas. Je stéréotype, mais voilà. Ouais. Et il y a des mouvements de masse. Les peuples, ils ont des mouvements de masse. Le peuple juif, il n'a pas de mouvement de masse. C'est le problème, c'est la question. Normalement, il devrait avoir un mouvement de masse vers le bien. Et il n'y a pas. Et comment ça se fait? Et c'est la grande question.
Je trouve qu'il y a quand même.
Non.
Non,
globalement,
entre nous, le bien en général.
Mais tu prends dans
les. Moi, je sais pas.
Tu peux prendre les plus grands familles.
Non, mais si tu déplies les peuples, tu fais qu'il y a le plus de cœur. Hein,
oui, mais d'accord, mais je dis qu'en fait, il y a quand même beaucoup de juifs qui échappent au caractère national. Ouais.
Ah, tu vas à l'intérieur du peuple
juif. En pourcentage, il y en a beaucoup trop qui ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de masse. C'est-à-dire que chacun, il fait un peu, chacun, il va où il veut, et il y en a beaucoup qui choisissent, le plus facile, ils choisissent le mal. Alors qu'un Français, pour décider qu'il est plus Français et qu'il va arrêter de manger des croissants, il faut y aller quand même. Non, mais c'est-à-dire, les stéréotypes, ils sont intéressants en cela qu'ils sont vrais. Ils ne sont pas intéressants en cela que c'est des stéréotypes. Ça veut dire. Quand tu as des statistiques, ça te dit quoi? Que 80% des gens, tu es assureur. Tu veux savoir, est-ce que ça te vaut la peine d'assurer ou pas? Va dire statistiquement, ouais, si je, dans cette ville-là, 90% des gens, ils font des accidents une fois par an. Bah, je vais pas aller là-bas. Ouais. Ça veut pas dire que mais non, tu regardes chacune de ces personnes. Est-ce que ce type-là a fait un accident? T'en sais rien. Mais tu regardes. Ouais, tu comprends ce que je veux dire. Donc. Ici, c'est pas comme ça. Ici, il n'y a pas de statistiques. Le peuple juif, il n'a pas de statistiques. Et donc, en fait, il y a une très grande liberté qui permet aux gens d'échapper complètement. En quoi il est juif? On ne sait même plus, en fait. Hein. On ne sait même plus. Si ce n'est, des fois, le seul caractère juif de certains, c'est leur absolue liberté à devenir des gens infâmes. Et c'est paradoxal, quand même. Ouais. C'est infâme que.
Quand ils vont chercher de manière.
Non, mais c'est le seul. Non, c'est pas ça. C'est le seul caractère juif qu'on leur reconnaît. C'est le fait qu'ils sont absolument libres de toutes les conventions et qu'ils vont se permettre tout.
Oui, les Français disent ça sur les juifs.
Mais c'est vrai.
C'est un plus grand voleur. Un grand voleur,
voilà, parce qu'il a une capacité à échapper aux conventions. Mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que nous, on est comme ça? Pourquoi est-ce que le peuple, il a cette tendance? Alors que la base, c'est une base très solide.
Il y a une Gemara, non?
Rov Ganvei Israël. Alors, c'est un pasuk Behemet. Que le pasuk qui dit Yadashor koneu vechamor evus baalav, ouais, un taureau il connaît son propriétaire, un âne il connaît le mangeoir que son propriétaire il remplit, ouais, même ça, il y a des choses, c'est de l'ordre de la nature, ouais, amilo, et c'est quoi la suite du pasuk, ouais, c'est aval Israël lo yada amilo et bonan, ouais, et ça on va développer cette idée, mais qu'il y a quelque chose de, c'est que le pasuk déjà relève ce paradoxe, ouais. Un taureau qui est vraiment, c'est un bœuf quoi, c'est une vache, c'est pas un animal intelligent. Il reconnaît son propriétaire, il obéit à son propriétaire. Un âne, encore une fois, c'est un âne. Mais il sait retrouver le mangeoir que son propriétaire il le remplit. Et mon peuple, loyada veloïd banane, comment est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est qu'en fait, de dire on est en galoute à cause de la faute, c'est pas comprendre qu'en fait, la faute elle a quelque chose de pas naturel. Il faut comprendre comment est-ce que la faute elle est possible dans le peuple juif, et ça c'est une grande question en fait. C'est une grande question parce que ça ne devrait pas être naturel. Ça ne devrait pas être naturel qu'un peuple il échappe tellement à son identité. Ou si l'identité elle était tellement forte, tellement on échapperait. Donc comment est-ce qu'on a Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont les Avot à Ouma, ouais, c'est les pères, donc on est leurs enfants, et en même temps il y en a tellement statistiquement hein, qui ne correspondent pas à ce modèle-là. Et ça c'est une grande question. Ça, c'est une grande question qui va essayer de résoudre au fur et à mesure des quelques prakim à venir. Voilà. Allez.